Avons-nous de bonnes raisons de croire? Je reviens vers vous ce matin pour la quatrième et avant-dernière fois avec ce thème et cette question que nous avons creusée durant l'automne. Avons-nous de bonnes raisons de croire au Dieu de la Bible? Ou bien alors devrions-nous nous résoudre à accepter que la foi chrétienne, en fait, repose uniquement sur une démarche subjective, sans fondement objectif, donc? Lors d'une première prédication, nous avions essayé de relever pourquoi un tel questionnement et une telle approche objective pouvaient se révéler pertinents. À la fois pour ceux qui nous entourent d'abord, afin de pouvoir les rejoindre, et puis aussi pour nous-mêmes, oser examiner le bien fondé de ce que nous croyons pour en ressortir affermi dans notre foi. Alors certes, nous avions bien dit que parler de fondement objectif ne voulait en aucun cas dire qu'il s'agissait de démontrer la vérité du Dieu de la Bible. Non, les preuves au sens fort du mot, donc que faire ici, sinon la foi ne serait plus. Mais par contre, nous avions dit qu'il pourrait être intéressant de partir à la recherche de tout un faisceau d'indices objectifs. Un faisceau d'indices à travers la science, l'histoire, la morale, la philosophie ou l'expérience qui viendrait nous encourager à dire « Voilà pourquoi je suis chrétien ». Et c'est donc le chemin que nous avons pris en commençant les deux fois précédentes par le versant, je dirais, scientifique. Les sciences physiques d'abord, au travers notamment des questions astronomiques et des indices de l'infiniment grand. Des indices qui nous ont donné de bonnes raisons de croire à l'existence d'un Dieu personnel. Et puis ensuite, les sciences historiques et archéologiques qui nous ont encouragés pour leur part à croire que la Bible, ce livre qui révèle le Dieu de la foi chrétienne, avait de très, très bonnes raisons d'être fiable. Oui, en définitive, les sciences nous ont donné de bons indices, de bonnes raisons de croire. Et en fait, on aurait pu s'arrêter là, sur cette approche scientifique. Car, et surtout dans notre société contemporaine, quand une chose est solide scientifiquement, eh bien, elle est solide tout court. C'est vrai. Mais pourtant, pour ce qui est de la question de la vérité de Dieu, il me semble que les sciences ne peuvent pas tout nous dire et que d'autres domaines doivent être explorés en parallèle. Car la foi est aussi une chose qui vient parler à notre âme et à notre conscience. Il est donc légitime de se demander, pour croire en sa vérité, si le Dieu de la Bible répond convenablement et en profondeur à cette âme et à cette conscience. Dit autrement, le Dieu de la Bible répond-il à nos questionnements les plus profonds? Et c'est une question que l'on peut aussi approcher, me semble-t-il en tout cas, sous un certain angle objectif. Et c'est donc dans cette direction que je vous invite à aller ce matin. On va tout reprendre de zéro, si vous le voulez bien, et on va se demander une nouvelle fois, mais par ce versant donc, si nous avons de bonnes raisons de croire que Dieu existe d'abord, puis ensuite, si nous avons de bonnes raisons de croire que c'est la Bible qui nous le révèle en vérité. Et nous ferons cela en trois étapes. Dans un premier temps, nous essaierons de répondre à la question de l'existence de Dieu à travers ce qu'on appelle le concept de l'obligation morale. Puis, une fois ce premier fait établi, entre guillemets bien sûr, nous verrons ce qui pourrait nous permettre de penser que la religion chrétienne est bien celle qui répond le mieux à notre conscience et à notre âme. D'abord en disant quelques mots sur sa moralité unique, puis ensuite en voyant donc comment elle répond à certaines questions éminemment essentielles. Voilà pour le programme. Et on démarre de suite avec notre première interrogation. En dehors des sciences, avons-nous d'autres bonnes raisons objectives de penser que Dieu existe ? Je crois que oui, et je vous invite pour présenter cet argument à partir de quelques exemples tirés de l'observation de notre monde. Premier exemple. Vous rappelez-vous le tsunami de 2004 en Asie, qui a fait environ 250 000 morts ou disparus et des pays dévastés. Eh bien, j'ai appris que le peuple français, dans son ensemble, avait donné pour aider à la reconstruction et aux différents besoins urgents environ 371 millions d'euros. Énorme, n'est-ce pas? Mais, je ne sais pas vous, mais moi, parfois, je me demande, pourquoi a-t-on fait cela? Qu'avions-nous à y gagner, en fait? C'est vrai, pourquoi, après tout, ne les a-t-on pas laissés se débrouiller? L'Asie, c'est loin. Ça n'avait aucun impact pour nous. Ou encore, deuxième exemple, vous rappelez-vous de l'appel de l'abbé Pierre au cœur de l'hiver 1954 et, comme on l'a nommé, de l'insurrection de la bonté qui a suivi? Encore une fois, je vous le demande, pourquoi? Pourquoi une telle solidarité? Pourquoi n'avons-nous pas laissé mourir de faim et de froid tous les SDF? Parce que c'était plus simple quelque part, non? Et puis, maintenant que je suis parti, je vais même encore plus loin tant que j'y suis. Accrochez-vous, par contre. Pourquoi, après tout, nous interdit-on de penser qu'Hitler, finalement, il avait peut-être raison? C'est vrai. Qui nous a dit que certains peuples ne méritaient pas d'être exterminés? J'en dis pas plus, mais je vous le demande. Êtes-vous choqués par de tels propos? Parce que moi, je le suis profondément, j'ai même eu du mal à les dire, pour tout vous avouer. Et je précise d'ailleurs, pour éviter tout malentendu, que ce n'est pas ce que je pense. Mais du coup, si vous êtes choqués, ne vous êtes-vous jamais posé en conséquence cette question si naturelle? Pourquoi est-ce que de telles paroles vous choquent? Dit autrement, pourquoi savons-nous pertinemment que certaines choses sont foncièrement choquantes et abominables? Parce que, vous serez d'accord avec moi, les nazis, ils avaient beau être convaincus de rendre service à l'humanité en faisant ce qu'ils ont fait, nous savons qu'ils n'avaient pas le droit d'agir ainsi. Nous le savons, comme nous savons qu'il n'est pas juste de laisser mourir les gens, quand bien même cela nous faciliterait la vie. Nous le savons, quoi qu'on fasse de cette réalité ensuite, de quelque manière qu'on la mette en pratique, mais on le sait. On le sait. Mais donc, question, pourquoi le savons-nous? Qui a inscrit cette vérité en nous? Parce que s'il n'y a pas de Dieu qui aurait fait cela, c'est qu'il n'y a pas d'absolu moral. Et s'il n'y a pas d'absolu, c'est que tout est relatif. Et si tout est relatif, qu'est-ce qui nous permet alors encore de dire qu'une chose est bonne et qu'une autre ne l'est pas? Vous me suivez? Le concept de l'obligation morale, qui me semble être une problématique essentielle ici, c'est croire que certains actes, quelle que soit la culture, quelles que soient les convictions personnelles d'un individu, ou quels que soient ses intérêts, c'est croire que certains actes ne doivent pas être commis. C'est croire qu'il existe, indépendamment de nous, des normes morales inscrites dans notre conscience et qui ne peuvent être reniées. Commencez à contester cette réalité et vous ouvrirez la porte à la justification de tout mal. Et le concept de l'obligation morale est donc un indice extrêmement fort, à mon avis, en faveur de l'existence de Dieu. Car, je le répète, qui a fixé ces normes si Dieu n'existe pas? D'où nous viennent-elles? Pourquoi semblent-elles innées en nous? Quoi qu'on en fasse, encore une fois. En fait, sans Dieu, la seule explication possible qui soit est que tout cela nous vient de notre processus évolutif. Mais le problème, c'est qu'on sait par ailleurs que l'évolution s'est justement construite sur la survie du plus fort au détriment du plus faible. Il paraît donc difficile d'imaginer qu'elle soit à l'origine de cette conscience qui veut aussi accorder de la valeur aux faibles. Oui, on ressent comme une difficulté. Je n'en dis pas plus, parce qu'il me semble effectivement que notre conscience nous donne ici le plus naturellement du monde, je dirais, un bon indice pour croire à l'existence d'un Dieu, et plus précisément même d'un Dieu moral. On s'arrête là pour ce premier point et on continue de suite avec la question suivante. Si l'hypothèse de l'existence de Dieu est maintenant devenue plausible, demandons-nous une nouvelle fois, pourquoi aurions-nous de bonnes raisons de penser que c'est la Bible qui nous le révèle en vérité? Et posons-nous donc à présent cette question sous ce nouvel angle, sous cet angle moral. Autrement dit, demandons-nous la chose suivante. Le Dieu de la Bible répond-il mieux que celui des autres religions à notre morale et à notre conscience? Et si oui, en quoi le fait-il? Et de quelle manière? On va creuser cette question car elle paraît importante. On va la creuser, même si, je dois bien le reconnaître avant d'aller plus loin, on s'engage quand même ici sur un terrain un peu glissant, n'est-ce pas? En cherchant ainsi à faire un comparatif moral entre les différentes religions. C'est un terrain glissant pour la simple raison suivante. C'est que si on se fie à la moralité de ceux qui se réclament de telle ou telle croyance, eh bien on va immanquablement être confronté dans tous les cas à la fois à des exemples remarquables, mais aussi à des contre-exemples détestables. Et cela ne va donc pas nous faciliter les choses pour faire notre comparaison objective. Oui, il aurait été bien plus pratique de voir une religion qui sorte moralement du lot de façon évidente par rapport à toutes les autres sur l'ensemble de son histoire. Tant par le bien qu'elle aurait fait que par le mal qu'elle n'aurait pas fait. C'eût été bien plus simple. Mais ça, force est de constater qu'on ne l'a pas vraiment. Alors du coup, que pouvons-nous dire quand même sur ce point? Peut-il encore malgré tout nous donner un indice pour le Dieu de la Bible? Eh bien, la première chose que l'on pourra dire, c'est qu'il y a quand même, quoi qu'on en pense, certains éléments qui mettent en avant une certaine supériorité, je dirais, du christianisme sur cette question morale. On pourra citer d'abord, bien évidemment, la moralité des textes eux-mêmes, tels qu'on les lit, comme le Sermon sur la montagne, par exemple. Cette ode sublime appelant à la perfection morale. Ou, encore mieux, on pourra relever la moralité du personnage central de la foi chrétienne, à savoir Jésus, bien sûr. Une moralité absolument unique. D'ailleurs, fait étonnant, même les musulmans le reconnaissent, par exemple. Jésus est unique, il est le seul à avoir été sans péché, c'est-à-dire à avoir été moralement parfait. Et donc oui, on pourra dire que ces choses-là mettent quand même la Bible comme en pole position morale. C'est un premier point. Mais néanmoins, même si ces éléments sont à prendre en compte, ils ne seront pas suffisants, à mon avis en tout cas, pour faire à ce stade de la moralité chrétienne, un vrai indice pour le Dieu de la Bible. Nécessaire, oui, sans aucun doute, et c'est déjà très important, mais pas suffisant. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il ne solutionne pas un problème majeur que l'on rencontre ici, à savoir le décalage flagrant qu'on est obligé de constater entre cette moralité parfaite des écrits et du fondateur, et puis la nôtre. Bien plus imparfaite. Et ça, avouons-le, c'est quand même un peu embêtant. Et le monde ne s'y trompe pas d'ailleurs. C'est même un des principaux reproches qu'il soit fait aux religions. On pourrait presque y voir un contre-indice de l'existence de Dieu. Et oui, parce que si un Dieu moral existait vraiment, alors la grandeur morale de ceux qui le suivent ne devrait-elle pas sauter aux yeux de ce monde? C'est une objection qu'on entend, et à juste titre, je dirais. Oui, nous voici face à un problème. Et si nous voulons encore trouver ici un indice pour le Dieu de la Bible, alors il va nous falloir regarder si la foi chrétienne est capable de répondre à ce problème. Si elle est capable, mieux que les autres, je dirais, d'apporter une explication cohérente à ce décalage a priori fort dérangeant. Et je crois effectivement que le message de la Bible apporte une réponse. Une réponse unique, sans nul doute. Et même une réponse particulièrement pertinente. Je vous invite à la détailler ensemble. Cette réponse, nous pourrions l'appeler le retournement moral opéré par l'Évangile. Oui, l'Évangile, cette bonne nouvelle du pardon et du salut reçu par la foi, sur la seule base du sacrifice de Jésus sur la croix à notre place, cet Évangile propose en lui-même un véritable retournement moral qui va être capable de répondre à notre problème. Je m'explique. En fait, je crois que chaque homme et chaque femme que nous sommes possède dans son cœur un mode de fonctionnement par défaut. C'est celui qui consiste à faire quelque chose pour mériter quelque chose. On est tous naturellement comme ça, n'est-ce pas ? Dans tous les domaines d'ailleurs. C'est comme inscrit en nous. Et par suite, force est de constater que toutes les religions du monde se sont construites à partir de ce fonctionnement par défaut. Oui, c'est un fait. Toutes les religions consistent à proposer un système religieux, c'est-à-dire un système de règles à suivre pour devenir bon et mériter Dieu, quoi qu'on mette dans la notion de Dieu. Mais le problème, donc, on l'a dit, c'est que le constat pour tous ces systèmes est le même. L'échec. Un échec moral complet et ce décalage inévitable entre théorie et pratique. Oui, tous les systèmes religieux sont en échec, quels qu'ils soient. Même le christianisme, d'ailleurs, si on le considère, comme on le fait malheureusement bien souvent, comme un tel système. Le constat est sans appel. Mais du coup, ensuite, toutes les religions cherchent donc naturellement à lutter contre cet échec et à trouver des solutions et des compromis pour le contourner ou bien pour le résoudre. C'est la balance qui pèse nos œuvres bonnes et mauvaises dans l'islam. C'est le karma qui influence nos vies futures pour les religions orientales. Et ainsi de suite. Mais toutes les religions veulent reprendre la main quelque part face à ce constat. Toutes font cela. Toutes, mais pas l'Évangile. Ou plutôt, l'Évangile est en fait le seul à prendre une autre route et à proposer un autre mode de fonctionnement que celui par défaut. Oui, l'Évangile se distingue complètement des autres quand il annonce non pas un système religieux, mais bien plutôt un système de grâce. Et c'est cela qui va induire ce retournement moral complet et qui va changer absolument tout concernant notre problème. Précisons, que fait l'Évangile ? Eh bien, je dirais deux choses. D'abord, en opérant ce retournement, il nous fait comprendre que lui n'a pas peur de ce constat inévitable de l'échec moral de l'homme et de tout système religieux. C'est même, il n'en a pas peur, c'est même son point de départ, en fait. Oui, soyons-en certains, l'Évangile proclame la faillite morale absolue de l'homme. Et comprenons bien qu'il est le seul à le faire. Pour tous les autres, une telle affirmation est même choquante. Rappelez-vous les pharisiens, prototype par excellence des religieux de tout temps et de tout ordre, ces pharisiens pétris de certitude quant à leur solidité morale. Mais Jésus leur dira, non sans ironie, « Les bien portants n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » L'Évangile n'a pas peur de voir le décalage moral de l'homme en face. Et l'Évangile n'a pas peur non plus, d'ailleurs, de dire que l'Église n'est pas le lieu de ceux qui sont moralement meilleurs. Soyons-en convaincus si nous avions encore cette illusion. Non, l'Église n'est pas le lieu de rassemblement des bien portants, mais simplement celui des malades conscients de leur maladie et en cours de traitement. Et donc, conséquence évidente, nous n'avons pas à craindre d'affirmer que les chrétiens ne sont pas meilleurs que les autres. Nous n'avons pas à le craindre simplement parce que notre vérité ne se base pas là-dessus. Parce que notre fondement est ailleurs. La moralité en est seulement une conséquence qui vient progressivement. Mais les autres religions fondées sur un système moral pour mériter Dieu, elles, je me dis, elles se doivent quelque part d'être meilleures moralement, car c'est seulement là qu'on pourra reconnaître leur vérité morale par rapport aux autres. Vous me suivez ? Mais l'Évangile, lui, encore une fois, ne cherche pas d'abord cela, puisqu'il n'est pas un système moral, mais un système de grâce. Voici une première réponse. Et puis aussi, un deuxième retournement, crucial également, qu'opère l'Évangile. C'est qu'en brisant par ce système de grâce notre fonctionnement par défaut qui cherche à mériter Dieu. Eh bien, il brise par là même le fonctionnement, osons le dire, finalement très égocentrique de toute religion et de tout système religieux. Oui, je le redis, tout système religieux, au fond, est égocentrique. Pourquoi ? Eh bien, simplement parce que dans tout système religieux, je fais les choses pour mériter en retour. N'importe quoi et tout ce que vous voudrez. Mériter des exaucements, mériter des bénédictions particulières, mériter l'apaisement de la colère de Dieu, mériter le salut, bien sûr, et j'en passe. Oui, je fais toujours pour mériter, et donc, au fond, je fais toujours pour moi. Mais le problème, c'est que si je fais les choses d'abord pour moi, alors je ne les fais pas d'abord pour Dieu. Et donc, ma moralité est nécessairement entachée par cet égocentrisme qui, par définition, me met au centre au lieu d'y mettre Dieu. Non, la religion, quelle qu'elle soit, ne pourra jamais résoudre le problème moral de l'homme. Elle ne le pourra jamais, tout simplement parce qu'elle y a construit dessus. Mais par contre, l'Évangile qui me dit « tout est gratuit ». L'Évangile qui me dit « tu n'as rien à faire pour toi parce que je te donne déjà tout ». Cet Évangile-là sera le seul à pouvoir changer les choses en profondeur. Oui, par essence, l'Évangile est le seul qui puisse s'attaquer à la partie immergée de notre iceberg. Il est le seul qui ne se contentera pas de briser le dixième de notre cœur de glace qui ressort de l'eau, mais qui pourra aller creuser jusque dans les profondeurs de notre âme. Comme le dit Timothy Keller dans son excellent ouvrage « Une église centrée sur l'Évangile », « quand l'Évangile, dit-il, que l'Esprit nous fait comprendre, ronge cette situation par défaut qui est née du péché, alors et seulement alors, il pourra détruire nos moteurs intérieurs qui conduisent à des comportements coupables. » Oui, petit à petit, évidemment, car rien n'est moins naturel pour nous. Mais oui, petit à petit, en imprégnant toujours plus les réalités de l'Évangile en nous, l'Esprit est celui qui saura détruire nos moteurs intérieurs et qui saura nous ouvrir la voie à une vraie moralité, à une moralité authentique. Authentique parce qu'uniquement motivée par l'amour et la reconnaissance et non plus par quelque chose à gagner. Mais ce n'est pas notre fonctionnement par défaut. Loin s'en faut, n'est-ce pas ? Et il y a du chemin pour nous dans cette voie. Mais c'est en cela que la moralité de l'Évangile est vraiment unique. Parce qu'elle nous introduit dans une voie radicalement différente. D'ailleurs, si on regarde bien l'histoire de l'Église, il me semble que cette réalité apparaît presque systématiquement. En effet, c'est toujours quand elle a compris la foi comme un système religieux et moral que l'Église s'est inévitablement fourvoyée. bien pire souvent d'ailleurs que ne l'ont fait les autres religions, parce que la barre était encore plus haute. Mais c'est toujours au contraire quand elle est revenue au vrai sens de l'évangile de grâce qu'elle a su transformer le monde comme aucune autre religion n'a pu le faire, et croyons-le, ne pourra jamais le faire. Alors oui, pour conclure là-dessus, quand nous regardons tout à la fois, d'un côté, la perfection morale des écrits bibliques et celle de Jésus-Christ, ainsi que, de l'autre côté, ce retournement unique offert par l'Évangile, oui, quand nous faisons cela, j'en suis convaincu, nous pouvons raisonnablement en déduire que la morale chrétienne est définitivement bien meilleure que n'importe quelle autre. Et qu'en ce sens, donc, elle nous offre effectivement un bel indice pour le Dieu de la Bible. Voilà pour cette partie. Et nous continuons, nous terminons même avec un dernier point, sans transition en fait. Et vous m'excuserez d'ailleurs pour le passage ainsi d'un thème à un autre sans pouvoir en approfondir aucun. C'est sans doute pas très pertinent, je le reconnais, pour l'affermissement des idées, mais il me semble que dans ce type de réflexion, c'est nécessaire, car c'est l'addition de plusieurs indices qui va venir donner de la force à notre argument. D'où ma volonté de vouloir les présenter même succinctement. Donc, sans transition, continuons au cœur de ce thème général de la morale et de la conscience. Et en fait, ce sur quoi j'aimerais qu'on s'attarde maintenant pour conclure, c'est aussi une réflexion fondamentale, c'est, on l'a dit, en quoi la foi chrétienne répond-elle mieux aux questionnements les plus profonds que se pose notre humanité? Vous savez, ce genre d'interrogation si essentielle, qui brûle au fond de nous et qui nous empêche parfois, si on a le sentiment que Dieu n'en tient pas compte, qui nous empêche de nous approcher de lui. Et je voudrais, si vous le voulez bien, me concentrer ce matin sur une question précise, parce qu'elle me semble cristalliser tellement de choses. Je voudrais me concentrer sur une question qui heurte vraiment notre conscience. Sur la question, d'ailleurs, qui est sans doute la plus soulevée par ceux qui refusent l'existence de Dieu. Cette question, vous l'avez sans doute deviné, c'est la suivante. Pourquoi la souffrance ? Si Dieu existe, pourquoi permet-il que le monde souffre? Pourquoi permet-il que je souffre? Et donc, je voudrais qu'on se demande s'il existe une religion qui réponde le mieux à cette question centrale. Et je crois qu'une nouvelle fois, il s'agira de la foi chrétienne. Et sans doute même, je le dis déjà, allons-nous trouver ici l'indice le plus grand de tous pour le Dieu de la Bible? Alors allons-y en quelques mots, trop rapide bien sûr. La première chose que l'on peut noter, c'est que, bien évidemment, toutes les religions apportent leur réponse à la souffrance. Faisons-en un bref inventaire. Et démarrons peut-être par les religions orientales, telles que l'hindouisme ou le bouddhisme. Pour elles, je cite, « Dieu est au-delà des notions de bien et de mal, notions relatives selon les cultures et les époques. La souffrance n'a donc pas de réalité réelle, définitive, absolue. En fait, même la personnalité individuelle est illusoire. Pour de telles conceptions, donc, tout est en fait simplement question de point de vue. Comme le souligne C.S. Lewis quand il explique comment fonctionnent ses visions du monde, devant une personne atteinte d'un cancer, par exemple, vous pourriez, selon ses croyances, vous exclamer « Ah, mais si seulement tu pouvais considérer ces faits d'un point de vue divin, tu te rendrais compte que c'est encore Dieu. » Voici une réponse à la souffrance. Pour le musulman, les choses sont bien différentes. Pour le musulman, le mal est mal, il n'est pas relatif, et en cela donc, il se rapproche bien davantage de la foi chrétienne. Mais par contre, la cause de la souffrance expliquée par l'islam est, elle, nettement différente. Je vous cite une parole du prophète Mahomet. Tous les maux qui affligent le musulman, qu'il s'agisse de fatigue, de maladie, de soucis, de tristesse, de préjudice ou d'affliction de tous ordres, jusqu'à l'épine qui le blesse, sont autant de motifs que Dieu allègue pour absoudre ses péchés. la souffrance vue ici donc comme punition des péchés des hommes. Alors, je vous le demande, ces réponses vous satisfont-elles ? Moi, personnellement, j'avoue qu'elles n'apaisent pas ma conscience. D'abord, parce que je ne pourrai jamais me résoudre à dire que le mal est une question de point de vue. Et ensuite, parce que je trouve si culpabilisant et si déformé même de voir systématiquement la souffrance comme une absolution de nos fautes. Cette souffrance qui semble frapper si au hasard, les justes autant que les injustes. Cette souffrance qui semble si absurde bien souvent. Non, cela ne me satisfait pas. Mais alors, question suivante, la Bible fait-elle mieux ? Eh bien, ce qu'on peut déjà noter, c'est que la Bible récuse les idées précédentes. Dieu est bon et le mal n'est pas bon, d'abord. Et puis, et le livre de Job notamment l'atteste, la souffrance n'est pas toujours une punition du péché. Mais ceci étant dit, la Bible va-t-elle plus loin dans ses explications ? Eh bien, dans un sens, non. Je dirais même plus que la Bible, au fond, n'essaie pas, au contraire des autres, de fournir une réponse satisfaisante à cette question. Oui, il nous faut bien l'avouer, les quelques fois où ce thème est abordé de front dans les Écritures, nous sommes généralement toujours renvoyés à la question de la souveraineté de Dieu. Une souveraineté qui nous dépasse. Dieu n'est jamais l'auteur de la souffrance, bien sûr, dit la Bible. Elle est entrée dans le monde avec la désobéissance de l'homme, mais il la tolère d'une certaine manière, pour un temps en tout cas, et sans que l'on sache toujours pourquoi ici ou là plus qu'ailleurs. Mais il la tolère avant la promesse de sa destruction finale. Et alors cela pourrait nous frustrer que la Bible ne nous donne pas de réponse. Mais néanmoins, et c'est ici que toute la différence va être faite, néanmoins, la Bible prend quand même cette question particulièrement au sérieux. Mais elle la prend en fait, une fois de plus, sous un autre angle. Sous un angle même complètement différent. Et sous le seul angle, finalement, je crois, qui puisse à jamais résonner dans notre conscience et dans notre âme. Parce que si la Bible ne nous dit jamais pourquoi nous souffrons, elle nous dit par contre que Dieu nous aime tellement qu'il a choisi de souffrir avec nous, et même de souffrir pour nous. Et cela, oui, c'est profondément unique. Ça, oui, c'est profondément révolutionnaire comme vision. À la croix, nous constatons que Dieu accepte que quelque chose de mauvais vienne l'atteindre à lui. Dieu n'a pas seulement accepté la possibilité de la souffrance pour nous, mais il l'a aussi accepté par voie de conséquence pour lui. Et pourquoi ? Eh bien, juste par amour. C'est l'Évangile, encore une fois. Mais voici une réalité qui vient réduire en miettes l'image d'un Dieu qui serait indifférent à nos souffrances. Et voici une réalité qui vient réduire en miettes l'image d'un Dieu châtiant nos péchés par la souffrance. La croix vient réduire à néant ces tristes caricatures qui nous présentent un Dieu, finalement, si éloigné de l'homme qui souffre. Non, le Dieu de la Bible n'est pas ainsi. Il n'est pas loin. Et cela change tout une fois de plus. Albert Camus, d'ailleurs, l'avait bien compris lorsqu'il écrit « La nuit de Golgotha n'a autant d'importance dans l'histoire des hommes que parce que dans ses ténèbres, la divinité, abandonnant ostensiblement ses privilèges traditionnels, a vécu jusqu'au bout, désespoir inclus, l'angoisse de la mort. » Mes chers amis, de quel Dieu voulez-vous ? Voulez-vous le Dieu indifférent, assis les jambes croisées, le sourire aux lèvres, et regardant passer l'illusion de votre souffrance ? Ou voulez-vous le Dieu sévère, comptabilisant chacune de vos fautes et punissant chacun de vos écarts ? Ou bien alors, Voulez-vous le Dieu d'amour? Celui qui vous aime au point de prendre lui-même le mal en pleine figure. À quel Dieu les profondeurs de votre âme vous supplient-elles de croire? Quel est le Dieu qui résonne au fond de votre cœur? Moi, j'ai fait mon choix, mais non pas par commodité, comprenant le bien, mais parce que si l'être suprême existe, alors je me dis qu'il ne peut être moins parfait que cela. Oui, c'est après lui et après lui seul que mon âme crie, et c'est auprès de lui et de lui seul que je veux accepter de vivre mes souffrances. Lui, le seul et l'unique qui en a connu le goût amer. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. C'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Voici, je le crois profondément, le plus grand indice pour le Dieu de la Bible. Nous arrivons à la conclusion de notre réflexion ce matin. Et je vous fais un bref résumé. Le concept de l'obligation morale nous a d'abord encouragés à croire effectivement en l'existence d'un Dieu moral. Puis nous avons plongé plus précisément dans cette question de la moralité pour voir en quoi la réponse retournée qu'apportait l'Évangile était si pertinente. Enfin, à travers le thème de la souffrance, nous avons touché du doigt pourquoi cet Évangile était le seul qui pouvait vraiment répondre en profondeur à nos questionnements les plus intenses. Avons-nous démontré quoi que ce soit? Non, je ne le pense pas. Tout est toujours discutable, soyons-en sûrs, d'autant plus dans de telles réflexions, moins factuelles certainement que celles qui reposent sur des données scientifiques. Mais néanmoins, nous avons mis en avant quelques indices, forts me semble-t-il, qui nous montrent que l'Évangile et la foi chrétienne ont une capacité unique à répondre au cœur de nombre de nos interrogations existentielles. Et des indices qui résonnent dans nos consciences et dans nos âmes. Des indices qui, pour ma part en tout cas, m'ont fait dire que si un Dieu moral existe, alors il ne peut être que le Dieu présenté dans l'Évangile de Jésus-Christ. Parce que c'est trop beau, parce que c'est trop vrai, parce que c'est trop juste, parce que c'est trop parfait pour être une invention. Il y a un verset de la Bible que j'aime énormément et qui me semble tout à fait correspondre à cela, qui me semble tout à fait résumer cela. Nous le trouvons dans l'Évangile de Jean. À partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus, se tournant vers les 12, leur demanda « Et vous, ne voulez-vous pas aussi partir ?» Mais Simon-Pierre lui répondit « Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ces paroles qui résonnent dans nos cœurs. Oui, le message de l'Évangile est le message de la vie éternelle. Puisse-t-il nous remplir jusque dans cette vie auprès de Dieu, par sa grâce et pour sa gloire. Amen.